Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et comme la dernière fois, comme la semaine dernière, eh bien, c'est un verset très court. C'est une phrase très courte. Dans le sens, c'est évident. La semaine dernière, c'était « Soyez toujours joyeux ». Et aujourd'hui, ben, le verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Bon, je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben, on n'a pas besoin ni de faire du latin, ni de faire du grec, ni autre chose hein, pour comprendre ce que veut dire « Priez sans cesse ». Mais lorsque nous nous attardons un petit peu là-dessus, on nous dit « Mais comment prier sans cesse ?» Je sais qu'avec... J'ai eu des discussions avec nos amis musulmans. Ils disent « Mais nous prions plus que vous. Nous prions 5 fois par jour. » Je dis « Ah bon ?» Ben nous, la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est pas seulement 5 fois par jour, c'est sans cesse. Mais vous faites comment ? Vous êtes tout le temps dans l'église, toute la journée ? Mais c'est pas ça le sens. Si nous observons les croyances autour de nous, hein, dans le monde, on ressent que d'autres auraient ressenti ce besoin de prier plus qu'ils ne font. Au Tibet, par exemple, ils ont des moulins à prière. C'est des cylindres qui sont remplis de mantras et puis qui peuvent tourner librement autour d'un axe. Et selon leur croyance, l'objet, c'est de faire tourner ces moulins. Et puis, tant que ça tourne, ce sont des prières qui montent, des mantras qui montent vers les divinités. Et donc, ça, c'est continuel. Donc, ce que ça exprime, c'est cette aspiration de l'être humain. Il se dit, on a besoin de prier plus. On a besoin plus d'exprimer. Il y a ce sentiment de on n'en a pas fait assez. Et je serais étonné que vous puissiez rencontrer un chrétien qui dise je prie trop. Hein. Il y a plus de chances qu'on le dise autrement. Et après, il y a d'autres personnes qui vont à l'église et puis qui le dimanche ou un autre jour ou qui ne peuvent pas aller un dimanche et donc ils vont allumer un cierge et en fonction de la taille du cierge il y a une prière qui s'exprime en plus ou moins longtemps. D'autres répètent leur prière selon une certaine logique, ils ont un livre de prières, ils ont des prières, ils ont des chapelets, et puis on essaye de prier de plus en plus. Un certain Gilbert Cesbon a dit la chose de cette manière. Il dit « Parfois je ramasse des Ave Maria, je ressasse des Ave Maria, comme on bat le briquet. L'étincelle finira par bien arriver. » Donc, c'est, on essaye, mais on espère qu'il y en a une qui va passer. Et c'est peut-être le sentiment. Hein, cet homme, ce n'était pas par moquerie, mais c'est vraiment, c'est souvent la réalité. L'exhortation « Priez sans cesse » n'est pas basée sur la répétition, le fait de répéter les mêmes paroles. Hein, parce que Jésus lui-même, dans Matthieu 6, verset 7, il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Donc Jésus, quand il dit ça, il dit, c'est pas une question de le nombre de paroles, c'est pas le fait de dire des prières comme un moulin. C'est pas ça qu'il veut. Il dit même pas, c'est pas la peine de mettre des surplus de prières là-dedans, rien que pour remplir et pour... Non, c'est pas la quantité de mots. Hein. Dieu ne compte pas et dit « Ah, il y avait eu 3000 mots dans cette prière-là. Waouh, ça c'est pas mal. » Non, c'est pas ça qui fait le poids d'une prière. Alors, la question, c'est comment donc pouvons-nous prier sans cesse? Hein, c'est beau de le dire, prier sans cesse, mais comment prier sans cesse? Eh bien, peut-être qu'il faudrait voir ce que c'est que la prière. Hein, qu'est-ce que c'est que la prière d'abord? Hein, parce que s'il faut la pratiquer, eh bien, ici, le mot utilisé pour prier, et c'est le mot, chez les en grec, c'est le mot général pour qui englobe toutes les formes de prières. Parce que vous savez, il y a des prières qui sont des requêtes, il y a des prières qui sont de l'adoration, il y a des prières qui sont des expressions qu'on jette et enlève vers Dieu. Et là, en fait, c'est le mot général. Hein, dans l'apôtre Paul aux Éphésiens, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Veiller à cela avec une entière persévérance. Donc d'abord, c'est prier sans cesse, c'est en fonction de la situation. Si je suis dans la joie, eh bien, ça va être une prière de reconnaissance. Si je suis en train de dégringoler sur une montagne, eh bien, la prière, ça ne va pas être de la reconnaissance. Ça va être « Seigneur, aide-moi hein, ». Et puis, on ne va pas faire une prière très longue. Hein. « Au secours, Dieu hein, !» C'est-à-dire... Le cri de mon cœur, c'est en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, et je suis en train de dire quelque chose à Dieu en fonction de mon besoin. Quand l'enfant a faim, c'est pas le moment où il vient et dit « Maman, je te trouve très belle aujourd'hui », tout ça, sauf s'il essaye de manipuler. Hein, la prière, c'est cette pensée, ce sentiment que j'ai dans le cœur et que je veux exprimer à Dieu. Hein? C'est tout. Donc, nous favorisons beaucoup hein, les prières composées spontanément parce que c'est ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a pas de mal à emprunter la prière de quelqu'un d'autre si on la fait la nôtre. Hein? C'est-à-dire si je peux vraiment la prier. Je veux dire en passant, par exemple, certains veulent prier le Notre Père, la prière du Seigneur. C'est une bonne prière, hein? C'est celle du Seigneur. Et je dis, il n'y a pas de mal à la prier, mais sachez qu'il y a certaines paroles dans cette prière qui sont difficiles à dire. Hein? Surtout quand il dit que ta volonté soit faite dans le ciel, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, fais que ta volonté se fasse dans ma vie. Hein? Moi, je suis sur la terre aussi, je fais partie de la terre. Que ta volonté dans ma vie soit comme ta volonté se fait au ciel. Hein? Que je sois aussi obéissant que les anges le sont dans la gloire. Il faut, hein. Et si je dis pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, est-ce que c'est vrai que je pardonne à ceux qui m'ont offensé? Si Dieu me pardonnait comme je pardonne les autres, eh bien peut-être que je ne suis pas très pardonné. Hein. Alors je dis, si tu peux la prier, vas-y, prie-la. Mais c'est, avec Dieu, on ne peut pas faire l'hypocrite. Hein. On peut le faire devant les gens, on peut leur faire semblant de beaucoup de choses, mais devant Dieu, non. Hein, il voit clair. Les prières... mais si vous prenez des psaumes, vous pouvez les lire devant le Seigneur, on dit, voilà, Dieu, ça c'est le sentiment de mon cœur. Il n'y a pas de problème. Hein. Priez la Bible, trouvez un passage biblique, un verset biblique, et souvent on cite des versets bibliques dans nos prières, parce que ça exprime justement ce qu'on a envie de dire à Dieu. Hein, c'est ça qui est important, c'est que mes pensées soient alignées sur la pensée de Dieu, puis que j'exprime ses pensées. Mais malheureusement, pour beaucoup, leurs prières sont comme des lettres recommandées, sans accusé de réception. Ils savent pas, ils savent jamais si c'est arrivé. Hein. Et comme ils sont pas sûrs que ce soit arrivé, ils ont dit, il faudra en envoyer beaucoup. Hein, comme ça, il y en a au moins qui va y arriver. Mais une première chose qui est importante dans la prière, puisque la prière c'est parler à Dieu, eh bien, il faut d'abord une relation avec Dieu. Parfois, on entend les gens qui disent oui, avec un tel, on ne se parle pas. Eh bien, si on ne se parle pas, ça veut dire qu'on n'a rien à se dire. Et il y en a qui sont dans cet état par rapport à Dieu, hein, on ne se parle pas. Bon, alors, ne parle pas de prière, tu ne peux pas. Si, ben, je suis fâché avec lui, donc je ne parle pas. Bon, après, va voir pourquoi, si tu as vraiment raison d'être fâché avec lui. Mais c'est vrai que tant que tu es dans cet état-là, tu ne peux pas lui parler, tu n'as rien à lui dire. Sinon, peut-être de le critiquer, de lui reprocher quelque chose, mais on s'en lasse vite, hein. Donc, il y a déjà une première chose, c'est une relation. Est-ce que je suis, et dans la Bible, on a le mot communion. Hein, communion, ça veut dire comme union. C'est-à-dire où ça va dans les deux sens. Hein, Dieu me parle par sa parole, par son esprit, et moi, je lui exprime des sentiments, des pensées. Et puis, il y a un va-et-vient. Donc, il y a une communion. Et en fait, si je m'adresse à Dieu en tant que père, c'est qu'il faut que lui soit un père et donc que je sois son enfant. On ne dit pas père à n'importe qui. Et donc, est-ce qu'il y a cette relation? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis né de lui? Est-ce que, dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un acte de foi où on reçoit ce que Dieu a pourvu en Jésus-Christ, hein, où je comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, et je dis, j'accepte qu'il soit mort pour moi, je l'accepte. Et je veux que sa mort s'applique à ma vie. Et après Dieu dit, ben voilà, ah ben très bien, maintenant, puisque ça s'applique, donc tu peux être pardonné, je peux te pardonner parce que c'est expié. Maintenant, on peut se parler. Hein? C'est difficile de parler avec quelqu'un avec qui on a un problème sans régler le problème. Et c'est difficile de parler avec Dieu s'il y a un problème. Si lui trouve un problème chez moi ou si moi je trouve un problème chez lui. On ne peut pas se parler. Donc c'est important qu'il y ait cette relation. Ce qui est certain avec Dieu, c'est qu'on peut toujours commencer à lui parler en lui disant « Dieu, je te demande pardon. » Là, il entend. Peu importe ce que j'ai fait. Hein, c'est ça qui est une chose merveilleuse. Chez les êtres humains, parfois, ils sont bien fâchés. Même si on essaie de prendre contact, ils disent « Je ne veux pas t'entendre. » Ils raccrochent. Mais avec Dieu, à partir du moment qu'on vient avec l'intention de demander pardon et de rétablir la relation, c'est toujours ouvert. Hein. Et on peut toujours commencer par là. Et vous lisez la vie de Christ, c'était des gens dans toutes sortes d'états, certains malades, certains aucune connaissance, ni savaient même pas clairement qui il était. D'autres, c'était dans des situations de péché. Mais quand ils se sont adressés à Jésus, il a toujours reçu. Il n'a jamais dit à quelqu'un, écoute, toi, je te parle plein. Il a tout reçu, quel que soit leur état. Et c'était pour nous dire que Dieu est comme cela. Même le père du fils prodigue a reçu le fils. Alors que dans les coutumes de l'époque, et un fils qui s'était comporté de telle manière, il était maudit, il était mort. Et le père a dit, il était mort, mais il est revenu à la vie. Hein, tellement c'était loin, mais il l'a reçu. Et Jésus a dit cette parabole, c'est pour nous dire combien Dieu reçoit. Et peut-être que j'ai eu cette relation et je ne l'ai pas. Il y avait un temps où je priais et ça passait, et puis maintenant ça ne passe plus. Eh bien, il faut se poser la question, dire, mais pourquoi la tonalité n'est plus là, hein? C'est ça qu'on fait à la maison, hein? Quand on prend le téléphone, il n'y a pas de tonalité. Eh bien, on se renseigne pour savoir pourquoi. Eh bien, si avec Dieu, il n'y a pas la tonalité, eh bien, on se renseigne aussi. Et on va chercher dans la parole, dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et on sait que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Alors, un premier point, hein, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une rupture? Eh bien, une première chose, c'est que la désobéissance entraîne la rupture. La désobéissance. Et là, je prends l'exemple de Adam et Ève, hein, dans le jardin, tout au début. Hein, c'était le premier homme, c'était la situation peut-être la meilleure, hein, dans le monde. Dieu avait créé Adam. il l'a créé, il y avait une relation, il y avait un échange, et on a le sentiment, en lisant le chapitre 3, que tous les soirs, eh bien, il y avait cet entretien avec, entre Adam et Ève et Dieu, parce que Dieu, hein, c'est Dieu est appelé la parole, hein, donc c'est pas impossible. Il n'a pas de corps, mais il est la parole. Et il y avait cette communion ininterrompue jusqu'au jour où Adam et Ève ont désobéi. Hein, Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et ce que nous voyons au chapitre 3 de Genèse, hein, donc au verset 7, nous dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Il n'y a que Adam et Ève dans le monde. C'est les seuls qui existent. C'est un couple créé par Dieu. Et quelque part, après avoir mangé de ce fruit, tout d'un coup, ils se sentent nus. Pourquoi se sentiraient nus ? Il n'y a personne. Il n'y a personne pour regarder. Et ce n'est pas parce que Dieu est là qu'on se sentirait nus. Mais ce n'est pas la nudité physique, même si c'était certainement le cas, mais ce n'était pas cette nudité-là qui les dérangeait. C'était une nudité devant Dieu. Ils se sentaient pas présentables devant Dieu. Ils sentaient qu'ils avaient perdu une innocence que Dieu leur avait donnée, ils l'ont perdue, et tout d'un coup, ils sont coupables. Et ça crée une rupture. Et même quand Dieu est venu le soir, est venu vers eux, ils ont entendu sa voix dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été se cacher, comme si on pouvait se cacher de Dieu. Ils ont été chercher l'ombre des arbres pour échapper. Et chose qu'on remarque aussi, c'est que c'est qui est le premier qui a dit « Adam, où es-tu ?» C'est Dieu. C'est pas Adam qui a dit « Oh Dieu, tu sais, oh, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une bêtise aujourd'hui. » Non, non, ils sont en train de se cacher. Et c'est Dieu qui dit « Mais Adam, normalement, quand j'arrive, tu es content de me voir. Hein » hein, c'est comme quand vous rentrez à la maison, le petit chien, il est là. Hein, c'est le premier, avant les enfants même, il est là pour vous accueillir. Mais là, Adam n'est pas là. Et Dieu dit, Adam, où es-tu ? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où il est. Mais il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui est changé. Où es-tu ? Et Adam, qui, bon, en fait, que Timothée nous dit qu'il n'avait pas été trompé. C'est Ève qui a été trompée, mais lui, il a su ce qu'il faisait, et puis il a suivi quand même Ève. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Comme il n'a pas d'excuse, hein. Parce que lui, en fait, il savait clairement ce qu'il faisait. Et il n'a pas d'excuse, sinon, eh bien, c'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est tellement classique, et ça, en soi, ça suffirait pour nous dire qu'on est descendant d'Adam. Hein, mais, les hommes, ils se comportent encore de cette manière. On met la faute sur un autre. Je me rappelle, il y avait un petit dessin animé sur les familles. Et chaque fois qu'il y a une bêtise dans la maison, le père, il va demander à un enfant, il dit, qui est-ce qui a fait ça ? C'est pas moi. Il va voir l'autre, c'est pas moi. Il peut voir, il a trois enfants, il va demander à tous les trois, et tous les trois disent, c'est pas moi. Et alors, c'est qui ? Mais c'est le même genre de réponse souvent qu'on donne à Dieu. Alors moi, pour rien, hein, je vais voir, enfin, peut-être il y a... Et Adam, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Et on ne sait pas qu'il trompe Dieu, hein, on ne trompe pas Dieu. Parfois on arrive à se tromper soi-même, mais on ne trompe pas Dieu. Mais le problème, ce qui est certain, et pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup ce comportement-là, c'est parce que quelque chose s'est passé dans le cœur de l'homme. Tout d'un coup, il a un autre comportement. Tout d'un coup, cet homme qui était innocent, qui aimait Dieu, qui était à l'aise dans la présence de Dieu, tout d'un coup, il fuit la présence de Dieu et il répond n'importe quoi. Et il se comporte de manière injuste, et il met la faute sur sa femme, alors que certainement, lui, il aurait dû être près d'elle pour l'empêcher, la protéger. Mais la question, c'est que là, il y a une séparation qui se crée. Et quand Dieu dit, on dit le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Le mot mort, c'est pas seulement la mort physique, et c'est pas la mort physique. C'est vrai qu'éventuellement ils ont eu cette mort physique, mais c'était surtout cette séparation. Pour Dieu, séparation, c'est mort. Et c'est vrai que c'est l'aspect le plus douloureux pour nous, hein, lorsque nous perdons quelqu'un, c'est le fait de la séparation. Et pour Dieu, c'est ça la partie la plus terrible, c'est d'être séparé de celui qu'on aime. Et qu'est-ce qui sépare? C'est cette rupture, la désobéissance. Ils ont désobéi et ils n'ont pas encore demandé pardon. Et donc, il y a rupture. Et c'est la même chose pour nous aussi dans notre vie, même si nous sommes enfants de Dieu, même si Dieu est notre Père. Mais si j'étais désobéissant dans un domaine où je suis conscient de ma désobéissance, eh bien, tout d'un coup, je vais sentir à moins de demander pardon, à moins de venir et corriger la chose, eh bien, je vais sentir un froid qui s'établit. Et après, ce sera difficile de prier. Ce sera difficile de prier. On voudra que Dieu nous prenne soin de nous quand même, mais on ne se parle plus. C'est plus la même chose. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, c'est nous qui avons désobéi et c'est nous qui refusons de demander pardon. La désobéissance entraîne la rupture. Ensuite, si je continue dans Genèse, j'arrive au chapitre 4 et là, j'ai l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, alors pour beaucoup de gens, cette histoire, c'est deux frères qui chacun offrent quelque chose à Dieu et Dieu accepte de l'un et il refuse de l'autre. Et souvent, la première réaction, c'est que Dieu est injuste. Pourquoi Caïn, il a peut-être fait la chose sincèrement, hein, il a offert des fruits de son jardin parce qu'il était jardinier. Et Abel a offert quelque chose de son troupeau parce qu'il était berger. Rien de plus naturel. Mais il n'y a nulle part, hein, si vous regardez bien dans ce chapitre 4, il n'y a nulle part où Dieu reproche à Caïn, lui dit, mais tu as vu ce que tu m'as donné? Des tomates, des pommes de terre et des légumes, des fruits, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de ça. Mais Dieu n'a pas plus besoin d'animaux non plus, hein. Et Dieu ne lui reproche pas ce qu'il a donné. Mais lorsque nous lisons dans Hébreux 11, il dit, Abel a donné par la foi, tandis que Caïn n'a pas donné par la foi. C'est ça la différence, ce n'est pas le geste. Il y a des gens qui prient, mais qui prient, mais sans la foi. Ils prient des paroles. Il y a ceux qui sont, ils pratiquent une religion, mais il n'y a pas la foi parce qu'ils ne lisent pas la parole. Si j'ai jamais lu la Bible, je ne peux pas dire que je crois la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des paroles de Dieu. Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Qui donne sans reproche, mais qu'il demande avec foi, c'est-à-dire avec confiance. Le mot foi peut être remplacé par confiance, confiance dans ta promesse, confiance dans ton engagement. Tu m'as promis quelque chose, je le crois. J'ai confiance parce que toi, tu me l'as promis. Et c'est ça la foi. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir ce que Dieu a promis. Alors quand Dieu dit, si tu demandes le pardon de tes péchés à cause du sang versé de Christ, je te pardonne. Ben, il l'a dit, moi je peux venir à Dieu, je dis, Dieu, je voudrais que tu me pardonnes parce que Christ est mort sur la croix de mes péchés. Eh bien, on l'a, parce que je suis venu avec confiance sur ce que Dieu m'a dit, m'a annoncé. Et donc, nous pouvons voir ces passages. Regardez dans Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22, Jésus lui-même nous parle de la prière. Matthieu 21 et au verset 22, il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, demander, quand on demande, on s'adresse à quelqu'un. Ils disent donc, vous vous adressez au Père. Si vous demandez avec foi, il faut que ça soit basé sur une promesse, sur quelque chose que Dieu a promis de donner. Hein, si je demande à Dieu, je dis, Dieu, j'aimerais bien avoir une Porsche rouge. Il va dire, mais je t'ai jamais promis ça. Hein, il n'y a nulle part, je t'ai promis ça. Donc, il n'y a rien qui engage. Là, tu es en train de rêver. Mais si il me promet, il dit, écoute, je te protège, je pourvoirai, hein, le pain quotidien, tu l'auras. Et bien là, je peux compter dessus. Il dit, Dieu, tu m'as promis le pain quotidien. Hein? Et là, on peut prier avec foi parce que c'est basé sur une promesse. Il dit, et si vous demandez avec foi, par la prière, cette manière de s'adresser, de demander à Dieu, eh bien, il dit, vous le recevrez. Parce que quand je demande selon une de ses promesses, je sais que c'est selon sa volonté. Quand ma prière n'est pas basée sur une de ses promesses, ce n'est pas basé sur sa volonté. Et si ce n'est pas sa volonté, il n'est pas obligé de le donner. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit ici aussi, hein, mais avec mon père, il y avait des choses que je ne demandais jamais à mon père. Parce que je savais qu'il n'y a pas question qu'il me le donne. En fait, même, il y a certaines choses, si j'avais demandé, il aurait été offensé que je lui demande. Si j'avais dit, papa, écoute, je voudrais que tu me donnes l'autorisation de traîner tous les soirs aussi tard que possible avec mes copains. Mais j'aurais jamais, ça ne me viendrait même pas à l'idée de lui demander ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne le donnerait pas. Et en plus, il serait offensé par le fait que je lui demande. Je vais lui dire, papa. Et rien que en disant papa, je dis, mais je suis ton fils et je cherche ton. Je sais que tu cherches mon bien et je t'aime et tout ça. Et après, je demande pour quelqu'un qui n'est pas compatible avec ce qu'il pense de moi. Ça ne va pas. Hein, il y a des gens qui demandent n'importe quoi à Dieu. Il me dit, il ne me l'a pas donné. C'est quelque chose que je voulais. Eh oui, peut-être. Mais on demande des choses qui sont compatibles. Donc, on peut pas, si Dieu ne l'a pas promis, on ne peut pas demander avec foi. Mais si c'est une chose... Alors, je dis, Dieu, je voudrais vivre pour toi, je voudrais me comprendre pour pouvoir vivre mieux pour toi. Ah, ben ça, c'est des choses que lui veut. Et donc, je suis sûr d'avoir son aide. Et il pourvoit. Donc, nous avons dit, la première chose, la désobéissance peut créer une rupture dans la prière. Et si je suis en train de vivre dans la désobéissance, je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui ne conviennent pas à Dieu. C'est vrai que je ne vais pas avoir envie de prier. Pas plus que j'ai envie de passer du temps avec ma femme si je suis infidèle. C'est de l'hypocrisie terrible. Et là, peut-être elle n'est pas au courant, donc elle dit, mais Dieu, il est au courant. Hein, ce que... Vous savez, je pense à un exemple cette semaine. J'avais donné cet exemple une fois à Saint-Denis, mais imaginez un homme, une femme qui vient voir son mari. Il dit, tu sais, Pierre, tu sais, je t'aime. Tu es mon mari, je t'aime. Je veux rester avec toi toute ma vie. Tu seras mon seul mari. Et je t'aime beaucoup. Et je veux personne d'autre. Mais tu sais, j'ai ce copain, Jules. Eh bien, je ne veux pas que tu te fâches. Mais j'aime bien sortir avec lui. Il est plus jeune et puis il s'amuse et tout ça. C'est intéressant avec lui, tout ça. Mais il ne faut pas que tu te fâches. Il ne faut pas que tu sois jaloux. C'est vraiment toi que j'aime, hein? Mais j'aime sortir, m'amuser avec lui. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle situation? Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour penser à ça, hein, pour savoir. Mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme ça avec Dieu. Il dit, Dieu, tu sais, dimanche, ils sont là. Ah, oh, Dieu, je t'aime. Il n'y a que toi, je ne prends personne d'autre et tout ça. Mais en semaine, ils sont en train de s'amuser avec Jules. Jules, il représente des gens du monde, il représente des plaisirs du monde, il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Et puis, on leur dit même qu'on les aime, on leur dit qu'on les apprécie, on veut passer du temps avec eux. Mais ça ne va pas, non. Comment je peux demander à Dieu, Dieu, tu sais, je t'aime. À la fin, quand Jules sera plus là, c'est toi que je viendrai. Non, mais oser parler de cette manière-là, même les gens du monde ne trouvent pas ça normal. Pourquoi est-ce que des chrétiens le feraient ? Hein, le dimanche, Dieu, ah, ils ont des belles prières. Et en semaine, ils sont en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre qui n'a rien à faire avec Dieu, qui n'aime même pas Dieu. Et qui veut même pas entendre parler de Dieu. Comment sortir avec quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de mon mari ? Mais vous savez, après on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'entend pas quand je prie ? Et va voir si ce mari-là, qu'est-ce qu'il va penser de toi ? Il dit, écoute, j'ai un mari normal, et il n'aurait pas tort, c'est pas une question de jalousie, il aurait dit, écoute, chérie, faut que tu choisisses. C'est ou lui ou c'est moi ? Et il n'a pas tort. Et pareillement, Dieu, il dit, écoute, non, mais tu as vu comment tu me traites ? Ou tu m'aimes, ou tu ne m'aimes pas. Mais ça ne va pas. Hein. Ce que tu pratiques ne correspond pas avec ce que tu dis. Et donc, nous devons faire très attention dans notre vie. Hein. Malheureusement, le christianisme, hein, je vais employer le mot christianisme, eh bien, on voit tellement de choses qui nous révoltent. Et parfois, je dis à des gens, je parle et dis, écoutez, moi, les chrétiens, et tout, je dis, mais je suis d'accord avec vous. Et si je savais seulement ce que vous savez, certainement que j'aurais la même pensée que vous. Mais je vais vous dire que moi, je connais Jésus. Les chrétiens, je sais, j'en suis un, et puis je ne suis pas parfait non plus. Mais Jésus-Christ, ça, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas le christianisme qu'on prêche, c'est Christ qu'on prêche. La Bible nous parle de Christ, pas de christianisme. Elle ne nous a pas parlé ni de l'église baptiste, ni de l'église l'Assemblée de Dieu, ni de l'église catholique, ni de l'église orthodoxe, ni de rien du tout. La Bible nous parle de Jésus-Christ, et Jésus-Christ seul. Et c'est tout ce qu'on a besoin, et c'est de venir à Jésus-Christ. Et c'est là, et lorsque j'ai cette relation avec Jésus-Christ, et cette relation de fidélité, après là, on peut commencer à prier sans cesse, avoir cette attitude de prière sans cesse. Certains trouvent que Dieu n'est pas disponible. Mais il dit, mais Dieu, il n'intervient pas là où il pourrait. Comment ça ? Eh bien, regarde tous ces innocents qui souffrent dans la vie, des gens qui ne sont pour rien et souffrent. Mais ce n'est pas Dieu qui les fait souffrir, c'est les hommes qui les font souffrir. Dis oui, mais regarde. Si Dieu est puissant, comme vous dites dans la Bible, que Dieu est tout puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut, pourquoi il ne dit pas un mot et tout d'un coup, tout le monde est guéri ? Tout d'un coup, l'hôpital, il n'y a personne. Il y a des infirmières qui s'ennuient et puis se disent, mais on va être au chômage bientôt, il n'y a plus de malades. Et il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas un mot comme ça ? Vous savez, Jésus-Christ avait la possibilité de guérir. Il disait un mot, il pouvait dire à distance même, il pouvait dire un mot et il guérissait quelqu'un. Mais il n'a jamais dit à toute une foule, il a dit, écoutez, tous les malades, vous vous mettez là comme ça, tous ensemble, et puis soyez guéris. Et puis tout d'un coup, tous étaient guéris. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auraient jamais remercié Dieu pour leur guérison. Quand c'était individuel, quand c'est chacun, après les gens, ils adoraient Jésus. Hein, combien sont venus, ils ont adoré Jésus, ils ont confessé leurs péchés, et Jésus leur a dit, après les avoir guéris, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. va et ne pêche plus. Parce que Dieu, ce n'est pas une question de guérir. Vous savez, il y en a plein qui ont été guéris à l'époque de Jésus, mais qui n'ont jamais cru. C'est eux qui disaient après, crucifie-le. C'est pas parce que les gens ont vu les guérisons qu'ils sont devenus croyants. Voir, vous savez, même de nos jours, on a des gens qu'on appelle des miraculés, mais c'est pas pour ça qu'ils deviennent croyants. Et on a des gens qui prétendent avoir été guéris, d'un moyen ou d'un autre, mais c'est pas automatiquement qu'ils deviennent croyants. Et il y a des gens qui n'ont jamais été guéris de quoi que ce soit et qui sont très croyants. Parce que c'est pas le fait de voir un miracle qui donne la foi, c'est le fait d'entendre la parole de Dieu. Et bien sûr que si les chrétiens se comportaient correctement, ce serait plus facile pour les autres d'entendre la parole de Dieu. Hein? Parce que des fois, on n'arrive pas à entendre parce que ce qu'on voit, ça ne correspond pas. Dieu veut cette relation personnelle. Thomas, on le critique, on le dit, mais Thomas, c'est celui qui a douté. Bon, il a pas douté plus que la plupart d'entre nous. Hein. Mais il avait vu, pendant 3 ans et demi, il avait vu des miracles, il avait vu Jésus faire toutes sortes de choses. Mais ce n'est qu'au moment où il a vu Jésus à sa résurrection, et il l'a vu vivant, mais avec encore les marques dans ses mains, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'était seulement, il avait vu pendant 3 ans et demi, il avait vu des miracles. Il avait accompagné Jésus partout, presque. Mais ce n'est pas pour ça qu'il avait cru. Ce n'est qu'il y a un moment précis où tout d'un coup c'est pénétré dans son cœur et dans son âme et dans sa pensée. Il a compris qui était Jésus. Et il a dit, voilà. Et puis Thomas, c'est celui, on dit, qui a porté l'évangile jusqu'en Inde, hein, et qui est aussi mort en martyr, mais il y a un moment où ça s'est réglé dans son cœur. Vous savez, tant que j'ai du doute, tant que j'ai des questions, tant que j'ai des reproches contre Dieu, tant que... c'est sûr que ça va être difficile de prier. Mais lorsque je comprends, c'est une question de ne pas comprendre ce qui se passe, c'est comprendre qui Dieu est et ce qu'il veut de moi. Il ne faut pas, c'est-à-dire Dieu n'est pas ce que je pense Dieu doit être, c'est à moi de penser ce qu'il est. C'est pour ça qu'il y a tant de religions, parce que chacun a son idée de comment Dieu est. Et chacun s'est inventé un Dieu à sa personne, et même les personnes qui se disent chrétiens, je ne suis pas sûr que tous pensent la même chose de Dieu. Hein, chacun a son idée, moi Dieu c'est comme ça, pour un c'est le barbu qui est sur un nuage, et pour d'autres c'est autre chose. Mais la Bible me dit qui est Dieu. Et ce que je dois penser, c'est ce que la Bible me dit, parce que c'est ça qui est juste. Et c'est le Dieu personnel. Et donc, c'est seulement lorsque j'ai réglé toutes ces choses-là que je peux commencer à ça a un sens de maintenant de prier sans cesse. Parce que, et je vais m'arrêter là, on continuera la semaine prochaine, hein, mais cette prière sans cesse, c'est une relation. Avec ma femme, je ne suis pas obligé à la maison de, chaque fois qu'elle est là, d'être en train de parler. Elle va me dire, tais-toi, ça suffit. Surtout si je dis n'importe quoi. Hein, déjà comme ça, elle en entend pas mal, des bêtises, mais ce n'est pas le fait constamment en train de dire des choses. Mais c'est cette présence, cette relation, cette disponibilité. Si elle parle, j'entends, j'écoute. Oui. Les maris entendent, mais ils n'écoutent pas toujours. Et de pouvoir lui parler. Et c'est d'être là, même si on n'est pas en train. Vous voyez un couple là, ils sont mariés depuis 60 ans. Puis ils sont assis comme ça, tous les deux sur la chaise, sur le banc, là, dans le parc. Ils ne se disent rien du tout. Mais il n'y a pas plus uni qu'eux. Après 60 ans, ils n'ont pas besoin de parler. Ils savent ce qu'ils pensent. Hein, il y a quelque chose qui passe. Elle sait tout de suite qu'est-ce qu'ils pensent de la chose. Mais c'est cette relation. Et c'est ce que nous devons chercher avec Dieu. C'est, je vis dans sa présence. Et même dans le silence, je suis en prière. Parce que c'est une attitude, c'est une relation, c'est un sentiment. Et c'est des pensées que j'ai dans ma tête. Et je sais quelles sont ces pensées. Et plus on a, et la Bible aime bien employer l'expression il a marché avec Dieu. Parce que comment Dieu peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'ont pas une même pensée? Hein, c'est pour ça que c'est très difficile de se marier avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Un croyant qui n'est pas un croyant, mais ils ont deux pensées, deux visions différentes sur la vie, deux intérêts différents. Mais ils vont faire le grand écart hein, bientôt. C'est pas possible. Hein. Et comment marcher avec Dieu si j'ai pas sa pensée à lui, hein. Et donc, prier sans cesse, c'est cette relation. Alors, c'est pour ça qu'il est important de prendre ce temps dans la parole de Dieu, de comprendre les pensées de Dieu, de corriger les idées. Il nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est pas devenir bête. En fait, c'est devenir plus juste dans notre pensée. Penser les pensées de Dieu, le créateur de notre monde. Et c'est pas mystique, c'est la réalité, ça fait partie de l'être humain. Bon, je vais m'arrêter là, mais c'est cette idée de prier sans cesse. Et c'est ce que nous devons rechercher, ce que Dieu désire avec nous. Hein, c'est pour cela qu'il a payé le prix pour nous. Ce qui a été perdu par Adam à cause de la désobéissance, eh bien, Dieu, en offrant Jésus-Christ son Fils, eh bien, nous donne la possibilité de retrouver ce qui avait été perdu dans le jardin d'Éden. Tellement parce que Dieu nous a créés pour la communion avec lui. Que nous puissions rechercher cela, rechercher ce qu'il a pour nous et fidèlement vivre avec lui, hein, pour lui. Parce qu'un jour, on sera avec lui, hein, si nous sommes enfants de Dieu. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour ta parole. Ce sont des paroles selon une autre logique, mais c'est selon celle que tu nous as révélée. Et Père, nous voulons nous puiser dans ta parole toujours, pour comprendre. Tout comme un produit que nous achetons en grande surface, nous avons besoin de consulter la notice pour savoir comment l'entretenir. Et bien de même, Père, dans notre relation avec toi, et nous avons besoin de comprendre comment tu as prévu notre fonctionnement, comment tu as prévu notre relation. Et c'est là où tu deviens vraiment le Dieu de notre vie. Et nous devenons tes adorateurs. Père, aide-nous, même ce début de réflexion sur la prière et prépare nos cœurs pour la prochaine fois. Nous te prions en ton nom et pour ta gloire. Amen. Je veux vous proposer un cantique. C'est le 182. Mon Dieu, plus près de toi. En fait, c'est ça la prière, c'est chercher à être plus près de lui, dans sa pensée, pas seulement physiquement, hein, il est présent partout, mais dans sa pensée, plus près de lui. Le 182.